Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, monsieur le recteur, monsieur l'académicien, professeur des universités, monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, madame la déléguée académique aux arts et à la culture, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, cher Olivier Houdet, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette deuxième conférence des académiciens en Sorbonne. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet amphithéâtre historique et quel plaisir de le voir à nouveau s'animer après des mois de crépuscule. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, comme toute personne désireuse d'apprendre et de transmettre le savoir. Ce cycle d'événements que nous avons le plaisir d'organiser conjointement avec l'Académie des sciences morales et politiques est voué à perpétuer cette tradition millénaire d'apprentissage. La civilisation, c'est la transmission. Aujourd'hui, nous allons justement évoquer le cœur même de l'apprentissage, notre cerveau. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Houdet, spécialiste de neurosciences cognitives. Votre présence parmi nous, cher professeur, nous honore et je vous remercie d'avoir accepté de nous faire cette présentation. J'y suis d'autant plus sensible que je sais votre attachement à l'école, ainsi que votre coopération constante avec l'ensemble des personnels de notre maison, et ce depuis des années. Vos travaux sur la pédagogie et le développement intellectuel des enfants jettent des ponts encore trop rares entre l'enseignement et la recherche, ce qui nous amène, pour notre plus grande joie, à travailler régulièrement ensemble. Vous faites vivre depuis des années la science de la pédagogie en faisant de chaque classe un terrain d'exploration, en faisant de chaque professeur un chercheur en acte. Loin de la pensée en silo, trop souvent pratiquée, vous avez su associer les acteurs de l'enseignement pour faire de l'école un lieu d'expérience scientifique renouvelée. Vos débuts vous destinaient à l'école, à sans cesse y revenir, puisque vous avez commencé votre carrière comme instituteur. Quelle belle et noble mission que celle d'instituer la nation. Cette première expérience vous a poussé à reprendre des études de psychologie à Paris-Descartes, où vous avez obtenu un doctorat complété par des diplômes de biologie humaine à Lyon, si mes renseignements sont exacts. Vous êtes alors devenu professeur de psychologie expérimentale dans cette même université de Paris-Descartes. De plus, après l'avoir dirigé pendant des années, vous êtes aujourd'hui directeur honoraire du laboratoire Lapsidé au CNRS. Vous avez également rejoint l'Institut universitaire français comme administrateur en 2018, ainsi que le Conseil d'évaluation de l'école, autant d'institutions partenaires de l'Académie de Paris avec lesquelles nous avons grand plaisir à collaborer. Je ne vais pas citer ici l'ensemble de vos ouvrages pour ménager un peu votre modestie. Votre cursus exemplaire suscite l'intérêt de tous. En 2017, vous êtes élu membre de l'Académie des technologies. En 2018, vous rejoignez l'Académie des sciences morales et politiques. En 2019, c'est au tour de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, votre pays natal, de vous ouvrir ses bras. Vos travaux, qui s'appuient notamment sur ceux de Piaget, portent sur les automatismes et les biais cognitifs de notre cerveau, ceux qui nous rendent sujets aux illusions, qui nous induisent en erreur lorsque nous cherchons à orthographier un mot ou à résoudre un problème de calcul. Vous nous mettez ainsi en garde contre une tentation dangereuse, celle de laisser notre cerveau prendre des raccourcis, les instincts prendre le pas sur la raison, et fausser notre réflexion. Car les conclusions de vos recherches, loin de se cantonner aux erreurs que peuvent commettre les jeunes enfants lors de leurs exercices de mathématiques ou de français, par exemple, mettent en lumière un danger auquel nous sommes tous exposés. Notre cerveau, parfois, nous trompe, je le dis sous l'autorité de Descartes, qui n'est pas loin. Notre cerveau nous trompe, et les préjugés, la panique, la crédulité nous gagnent, faisant apparaître nos fragilités. Ce sont ces réflexes de la pensée qui nous poussent souvent à commettre des injustices, à nous enfermer dans la peur de la nouveauté ou de la différence, qui permettent à des informations erronées d'atteindre des milliers d'internautes. C'est pourquoi il est crucial de comprendre nos propres fonctionnements, nos faiblesses et, pour ainsi dire, nos angles morts. Il faut apprendre à apprendre, bien sûr, éviter les pièges que notre propre esprit nous tend par habitude et, surtout, faire preuve d'humilité dans ce cheminement. Car je ne vois le tout de rien, admettait Montaigne dans le premier livre de ses essais. Comme lui, sachons reconnaître nos failles, nos angles morts, et exerçons toujours sur le monde et sur nous-mêmes un sens critique aiguisé pour nous améliorer, tenter de mieux penser et réfléchir. Ce sont des travaux comme les vôtres, cher Olivier, qui ouvrent la voie à cette démarche vertueuse, et c'est pourquoi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Sans plus attendre, je cède la parole à nos amis académiciens et je vous souhaite à tous et à tous une excellente conférence.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les recteurs, Christophe Guerrero, que je remercie infiniment aussi de l'accueil qu'il a fait à nos recherches dès sa prise de fonction. Le laboratoire du CNRS que j'ai l'honneur de diriger se trouve là-haut. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. Le recteur l'a déjà visité. Nous avons déjà eu des réunions et des déjeuners de travail. Je salue aussi le recteur Quesnay, honoraire, et qui est devenu également un confrère à l'Académie des sciences morales et politiques. Je remercie Marianne Thomy pour l'organisation de cette séquence. Vous allez voir, il y aura une brève partie de cours magistral, mais le but, comme l'a dit le secrétaire perpétuel, c'est que ce soit interactif, et en plus, il y aura différentes séquences que Marianne va guider. Quelques chiffres pour commencer, relativement au sujet qui était annoncé. Votre cerveau vous trompe, ou notre cerveau nous trompe, comment reprendre le contrôle? Alors, il faut d'abord qu'on essaye en quelques mots et chiffres de comprendre ce qu'est le cerveau, ce qu'est la pensée, l'intelligence humaine, celle de chacun et chacune d'entre vous. Et je dirais qu'il faut concevoir un grand triptyque, matière, vie, pensée. D'abord, l'origine de l'univers, le Big Bang, voir ce qu'il y eut avant. Et donc le chiffre, vous l'avez noté, il y a 13,8 milliards d'années, c'est là que commence l'histoire dont on va parler aujourd'hui. Il y a 13,8 milliards d'années, création de l'univers, la matière, et dans cette matière qui constituait l'univers, à un moment donné, a émergé la vie. Et les premiers êtres vivants furent des bactéries, elles sont toujours là, il y a 3,8 milliards d'années, et plus récemment encore, il y a 500 millions d'années, ont émergé dans certains organismes vivants, via les processus que l'on connaît aujourd'hui darwiniens de sélection naturelle, ont émergé certains organismes dotés d'un système nerveux qui deviendra central, avec à son sommet un cerveau, et à la fin de cette fabuleuse histoire, le cerveau d'Homo sapiens, qui est notre espèce, il y a cette fois 300 000 ans. 300 000 ans, c'est énorme par rapport à l'histoire de notre culture et notre civilisation, si on l'a fait par exemple remonter à 2000 ans à la Grèce antique. Donc il y a 300 000 ans, Homo sapiens est apparu, et vous, chacune et chacun d'entre vous, et c'est le dernier point de cette diapo, dans chaque enfance, depuis que vous étiez bébé, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas exactement quels sont les âges, mais imaginons 14, 15, 16, 17, voire plus jeune peut-être, vous devez reconstruire avec votre propre cerveau et acquérir le plus possible de toutes ces connaissances en philosophie, en sciences, en technologie, acquises au cours de l'histoire de l'humanité et du cerveau, et surtout en faire votre synthèse personnelle. Et pour cela, vous avez tous, on ne le voyait pas il y a quelques années parce qu'on n'avait pas encore les technologies d'exploration du cerveau, mais vous avez tous derrière votre front et à l'intérieur de votre crâne, ici même, ce superbe cerveau. Sachez, on pourrait le faire sous forme de devinette, mais vous aurez d'autres questions à poser tout à l'heure, sachez que le cerveau comporte 86 milliards de neurones, les neurones étant les cellules de base. On a longtemps dit 100 000, mais un rechiffrage beaucoup plus exact a été fait, et c'est autour de 86 milliards de neurones, et 1 million de milliards de connexions. Ce qui veut dire que dans la tête de chacune et chacun d'entre vous, il y a, en termes de nombre de connexions, un réseau plus complexe que l'Internet mondial. Et il y a même trop de connexions, tant et si bien qu'il faut opérer une sélection, un élagage, ce qu'on appelle, et que Jean-Pierre Changeux de l'Académie des sciences a appelé l'élagage synaptique, qui est une forme de darwinisme cette fois, neuronal. Il y a trop de réseaux, trop de connexions dans vos cerveaux, et l'apprentissage va être de sélectionner tel ou tel réseau qui sera adaptatif dans telle situation. Et c'est ainsi que vous avez appris à lire, écrire, compter, raisonner. Et l'exemple du langage est tout à fait convaincant. Tous les bébés du monde naissent avec la capacité et ont le cerveau pour parler toutes les langues du monde, mais ils vont sélectionner une langue, donc un réseau neuronal, ou deux langues si leurs parents sont bilingues, et toutes les autres vont être supprimés de la mémoire et sont très difficiles à réacquérir, on le sait, quand on apprend une langue seconde beaucoup plus tard. Et sachez que cette idée de sélection et d'élagage parmi un très grand nombre de connexions neuronales vaut pour tous les aspects du développement cognitif. Ce premier message, donc, pour dire qu'on a beaucoup de chance, tous et toutes, on a un superbe cerveau, une superbe machine, plus complexe que l'Internet mondial, et sur cette diapo, je vous ai mis tout au-dessus à droite, vous voyez ce cerveau dont sort la lumière, c'est le cerveau dit numérique de l'entreprise américaine Intel, qui est l'entreprise de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce cerveau numérique a un nombre 100 millions de neurones, vous voyez c'est écrit, et 100 millions de neurones, c'est à peu près le cerveau d'un hamster. Donc voyez que l'intelligence artificielle, déjà techniquement, est très très en deçà de ce que l'intelligence humaine peut faire, mais toutefois, ainsi que je vais le montrer, notre cerveau est très puissant et en même temps très fragile. On peut le pire et le meilleur, et il ne suffit pas d'avoir ce beau cerveau pour être intelligent, adapté, comme on souhaite qu'on le soit en sortant de l'école. Donc ce cerveau que vous voyez ici avec ses différents lobes s'inscrit dans le grand arbre du vivant qui va des bactéries à gauche, jusqu'à l'humain, au mammifère, tout à fait à droite. Oui, mais, beau cerveau, très complexe, mais notre cerveau nous trompe. Je vais vous donner quelques exemples, d'abord visuels, et on verra ensuite que la façon dont notre cerveau nous trompe, nous illusionne, va jusqu'aux connaissances, jusqu'aux aspects cognitifs, ce qu'on appelle actuellement les fake news, par exemple, qui sont des illusions cognitives, et met en cause la question du raisonnement, et je crois qu'aux âges qui sont les vôtres, le vrai exercice cognitif qu'il faut savoir faire, c'est bien raisonner. Et c'est une valeur qu'on a un peu perdue. Et face à la complexité des informations sur Internet et face aux écrans, l'éducabilité qu'il faut renforcer aujourd'hui, notamment en secondaire, c'est la capacité de raisonnement. Donc oui, mais beau cerveau, mais illusion. Vous voyez cette première illusion très connue qui s'appelle l'illusion de Müller-Leyer. Si on vous demandait ou que vous demandiez à un enfant ou à une personne même plus grande que vous, ces illusions touchent tout le monde, de dire quel segment des deux est le plus petit ou le plus grand, vous allez évidemment tous croire que le segment du bas est plus petit que celui du dessus. Or, et vous pourriez mesurer, même sur la diapo, si vous aviez le temps, les deux segments sont strictement égaux. Ce sont simplement les flèches, le sens des flèches qui sont apposées, qui trompent notre cerveau et qui font croire que l'un des deux est plus grand que l'autre. Ces illusions sont très très robustes, c'est-à-dire que si vous allez dans différents pays du monde ou dans des cultures différentes, ces illusions-là touchent tout le monde, donc tous les cerveaux. Autre exemple d'illusion, dite de Titchener, aussi le nom de son inventeur, on demande lequel de ces deux points noirs est le plus petit ou le plus grand, et la réponse systématique est de dire que le point noir de droite est le plus grand et celui de gauche le plus petit. alors qu'ils sont aussi, du point de vue de la surface, strictement égaux. Hein, si vous mesurez de façon, avec un modèle ou de façon géométrique, les deux cercles sont strictement égaux, mais le contexte, ce qu'on appelle le contexte perceptif, c'est-à-dire les éléments qui entourent ces deux cercles, vont tromper notre cerveau de telle sorte que s'il y a des gros ronds autour du cercle noir, eh bien on le pense plus petit que si ce sont des petits ronds qui l'entourent. Et donc là, l'aspect objectif, c'est que si vous mesurez, les deux surfaces de ronds noirs sont strictement identiques, mais votre cerveau ne les perçoit pas identiques. Autre illusion de Zöllner, toujours le nom de son inventeur, eh bien on croit que ces lignes verticales ne sont pas parallèles, qu'elles sont un peu dans tous les sens, obliques, que ce soit l'un des schémas ou l'autre. Or, ces lignes sont parfaitement droites, parfaitement parallèles. Ce sont simplement les petits éléments noirs ou les barres qui s'y superposent qui nous font croire ou perdre l'idée que ces lignes sont parfaitement verticales et parallèles. Et si on enlevait les petits traits ou les petits segments noirs qui sont entre les lignes, mais vous verriez des lignes parfaitement parallèles. Et notre cerveau ne les voit pas du tout parallèles. Ça, c'est le premier niveau cognitif. Ici, un exemple qui implique une illusion de perspective avec des humains cette fois. Et si l'on vous demandait ou si l'on demande à un enfant est-ce que les bons hommes ont la même taille ? Quel est le plus grand ? Quel est le plus petit ? Vous imaginez ce qui se passe. On dit que celui qui est tout devant est plus petit, le suivant est moyen, le dernier est le plus grand. Eh bien, ces trois personnages, vous pouvez, en prenant l'image, les superposer, ils sont strictement identiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de perspective. Alors, je vous parle là de perspective simplement visuelle, spatiale. On va aller plus loin, comme on l'annonçait tout à l'heure, ça va aller jusqu'aux illusions de perspective, c'est-à-dire de point de vue que l'on peut avoir quand on discute de politique, de religion ou de toute autre question. Un test là un peu plus cognitif qui s'appelle le test de Stroop. Si on vous demande très rapidement de dénommer la couleur d'impression des mots, vous verrez que c'est extrêmement difficile de dire vert alors qu'il est écrit le mot jaune, de dire noir alors de dire jaune alors qu'il est écrit le mot noir. C'est ce qu'on appelle le test de Stroop. C'est un test extrêmement connu en psychologie expérimentale et qui en fait montre fortement la difficulté que l'on a à inhiber nos automatismes. On a surappris à l'école, et c'est très bien ainsi, à lire les mots, tant et si bien que notre cerveau lit automatiquement le mot de façon irrépressible, et on doit inhiber la lecture du mot écrit pour simplement, et c'est très facile en soi, dénommer la couleur d'impression. Et si vous devez le faire très rapidement, c'est-à-dire j'essaye de le faire vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, déjà les deux derniers, vous voyez combien le vert bleu sont difficiles puisque la couleur est inversée par rapport à la sémantique, c'est un test extrêmement difficile et qui démontre la difficulté que l'on a à sortir de nos automatismes. Très rapidement, pour comprendre ces phénomènes, on a peu à peu élaboré, notamment avec mon laboratoire du CNRS, une théorie en trois systèmes cognitifs. Système 1, c'est ce qu'on appelle les automatismes, un terme un peu plus savant, les heuristiques. Ce terme a été consacré par un prix Nobel, le seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel en économie, parce qu'il n'existe pas de prix Nobel en psychologie, il y en a en physiologie, médecine, donc certains psychologues l'ont de ce côté-là, ou en économie. Et Daniel Kahneman a montré que les humains adultes fonctionnent très rapidement lorsqu'ils ont un jugement à faire ou un raisonnement par heuristique, c'est-à-dire des stratégies mentales très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Et c'est le « mais pas toujours », l'erreur à l'examen, le défaut de jugement et ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs. Ça, c'est le système 1. On l'appelait 1 parce que c'est en effet, en termes de connexion neuronale, le plus rapide dans le cerveau. Dans l'exemple précédent, c'est le système qui va vous faire vous tromper et lire le mot écrit, parce qu'on a surappris de lire les mots écrits. Il est rare, quand on nous présente des mots, de devoir dénommer la couleur d'impression plutôt que de le lire. Système 2, c'est ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire, comme en intelligence artificielle, mais vous avez aussi plein d'algorithmes dans votre cerveau, ce sont des règles logiques, logico-mathématiques, c'est-à-dire des stratégies plus lentes qui demandent un effort cognitif, le secrétaire perpétuel avait dans la toute première conférence parlé de mérite et d'effort cognitif, mais ce système 2 demande un effort cognitif. C'est une stratégie, un calcul analytique ou un raisonnement. Mais l'algorithme, s'il n'y a pas de bug, conduit toujours à la bonne solution. Et enfin, ce que l'on a surtout découvert, c'est la nécessité de développer au cours de la scolarité, au cours du développement, un troisième système qu'on appelle l'inhibition, au sens positif du terme, qui se trouve dans votre cortex préfrontal, à l'avant du cerveau. Et ce système inhibiteur, c'est votre arbitre interne. C'est ce qui fait, c'est le signal stop du cerveau, si vous voulez. C'est ce qui fait que vous allez dire, même si une réponse est très tentante, ou si vous avez envie de liker, par exemple, sur Internet, parce que ça vous plaît, mais vous n'avez peut-être pas pris le temps de raisonner, de décliner l'algorithme, eh bien, ce processus-là est déterminant pour être adapté et intelligent dans le monde d'aujourd'hui. Il faut inhiber les heuristiques quand elles nous piègent. Donc, trois systèmes, heuristiques, inhibition, algorithme. Un exemple scolaire que vous réussissez maintenant, mais que vous auriez échoué il y a quelques années, si en classe, le professeur ou la maîtresse dit en mathématiques « Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes ?» Vous verrez qu'à peu près toute la classe lève le doigt, maître, maîtresse, et répond 30. Or, la réponse correcte est, si vous lisez bien le problème, 25 moins 5 égale 20. Pourquoi la plupart des enfants répondent 30 ? Non pas qu'ils soient incapables de l'algorithme, qui est addition ou soustraction, mais parce que d'habitude, quand on a le mot « plus » ou que la maîtresse dit « plus » dans son langage, cette fois, les illusions de tout à l'heure étaient visuelles, ici c'est une illusion linguistique. Dans le langage, ça déclenche immédiatement dans le cerveau de l'élève l'heuristique. Après plus, j'additionne, après moins, je soustrais. Et c'est le défaut d'inhibition de cette heuristique toute prête qui crée l'erreur. Et dans les fameux classements internationaux PISA dont on parle, beaucoup d'erreurs des élèves sont liées à des problèmes de ce type, qu'on dit en général défaut de compréhension ou a mal lu l'énoncé. Le cœur de l'affaire, c'est ce processus d'inhibition dans le cerveau qu'on a mal appris à utiliser. D'autant que l'imagerie cérébrale et les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans le laboratoire ont montré que le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau, qui est le siège de cette capacité à inhiber nos automatismes ou nos heuristiques, mature très très lentement. C'est la partie bleu-violette à l'avant. Et là, c'est une étude depuis le tout début de la vie jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc vous êtes à peu près dans la dernière période. Votre cortex préfrontal continue sa maturation, donc son efficacité. Alors que les régions visuelles, par exemple, ou certaines régions motrices à l'arrière du cerveau, sont matures beaucoup plus tôt chez le jeune enfant, voire chez le bébé. Ce qui veut donc dire que ce cortex préfrontal qui est le mécanisme qui vous permet de résister aux illusions, qu'elles soient visuelles ou cognitives, est lui-même en construction. Donc il faut l'éduquer, il faut l'aider. Et à l'école, on apprend beaucoup et surtout des automatismes, renforcer les automatismes, et il faut le faire. Mais il faut aussi apprendre à faire exactement l'inverse, dans des tas de situations bien identifiées, inhiber les automatismes. Je vous donne un exemple qui est pour vous cette fois. Vous voyez sur l'écran ce qu'on appelle une règle conditionnelle, si alors, et la règle dit s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. À gauche et à droite, ce sont les deux carré que vous voyez dans le rectangle vide, les deux cases, case de gauche, case de droite. Vous voyez que vous avez à votre disposition diverses formes géométriques, des losanges, des carrés, des cercles qui peuvent être bleu, jaune, rouge ou vert. Et il vous est demandé, c'est un jeu, il vous est demandé de réfuter la règle. C'est une tâche de réfutation de règle conditionnelle. Dit en mots plus simples, vous devez sélectionner deux formes, celle de votre choix, en disposer une à gauche et l'autre à droite, de telle sorte que la configuration que vous créez avec ces deux formes aille contre la règle, la rende fausse. C'est un problème très simple. Vous avez vu le magnifique cerveau que l'on a, 86 milliards de neurones, 1 000 000 000 000 000 de connexions au sommet, en quelque sorte, d'une très 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 longue évolution, devrait résoudre ce problème facilement. Vous avez, j'imagine, déjà chacun plus ou moins dans votre cerveau, pour le coup, imaginé une réponse, On n'a pas le temps vraiment de le faire, mais si on le faisait, vous pourrez le faire avec vos camarades ou chez vous ou vos amis. Après, la réponse dominante dans ce problème est carré rouge, cercle jaune. Si on l'avait fait là, vous auriez vu à peu près 70% des réponses, voire 80%, eût été carré rouge, cercle jaune. Pourquoi ? On se dit, bon, il nous demande de rendre la règle fausse, il y a une négation au début, donc on va mettre un carré rouge, puisqu'il ne faut pas de carré rouge, et on va mettre un cercle jaune à droite. Et on se dit, avec ça, je vais rendre la règle fausse. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif ou une heuristique, donc le système 1, très rapide, d'appariement perceptif. On a une tendance irrépressible à apparier, c'est-à-dire à reprendre les éléments cités dans la règle comme réponse, ici carré rouge et cercle jaune, et à considérer que ça va réfuter la règle puisqu'il y a une négation dans l'antécédent. Alors la bonne réponse, ce n'est pas du tout celle-là, je vais vous la donner après. Et ce biais, il est très puissant. On l'observe dans tous les pays du monde, parce que en psychologie scientifique, expérimentale, c'est vraiment une science. Donc quand un laboratoire fait une découverte, mais d'autres chercheurs dans d'autres pays refont l'expérience, la répliquent pour voir si le résultat est robuste. Et donc il y a des lois de la logique, il y a des lois de l'apprentissage, mais aussi des lois de nos erreurs, des lois de nos biais. Et j'ai pu écrire un que sais-je, qui est une anthologie de nos biais de raisonnement. Et je pense qu'à votre âge, vous devriez savoir cela, parce que c'est l'âge où précisément vous pourriez connaître vos biais cognitifs et les corriger. Donc, carré rouge, cercle jaune, alors on pourrait dire, mais d'où vient cet appariement perceptif ? Mais si vous dites à un jeune enfant en vacances qui a envie de glace au chocolat, il n'y a plus de glace au chocolat, ou il n'y a pas de glace au chocolat, il va penser toute la journée à la glace au chocolat. Si je vous dis, n'imaginez pas un éléphant rose, a priori, vous avez tous imaginer un éléphant rose. Les exemples que je donne sont irrationnels. Ce sont avec des bricolages comme ça qu'on finit par être convaincu que quand on doit répondre dans un problème comme le précédent, eh bien reprendre les éléments qui sont niés vont faire qu'on réfute la règle conditionnelle. Et quand vous restez enfermé dans ce biais cognitif, voilà ce qui se passe dans votre cerveau, on l'a fait en conditions réelles, dans des caméras d'imagerie cérébrale, eh bien on n'utilise pas du tout l'avant du cerveau, ce fameux cortex préfrontal qui nous permettrait de dire stop et d'inhiber cette réponse trop rapide. On utilise un réseau postérieur qui est très bien en soi, mais qui n'est pas celui utile pour le raisonnement et l'inhibition des automatismes. On a pu, et c'est là où aujourd'hui on peut faire, et ça me passionne et vous aussi j'espère, de la neuropédagogie, on a pu tester en laboratoire comment on peut amener les individus, donc vous par exemple, à prendre conscience de ces biais cognitifs et surtout à les inhiber pour utiliser autrement votre cerveau. Et c'est ce que l'on a fait en entraînant ce que j'appelle le système 3, en entraînant ce contrôle inhibiteur, et lorsqu'on exerce les élèves à inhiber le biais d'appariement perceptif, voilà ce qui se passe dans leur cerveau, du même élève, avant et après l'apprentissage, une reconfiguration qu'on appelle postéro-antérieure, de l'arrière vers l'avant du cerveau, qui montre qu'on ne se laisse plus piéger, qu'on a inhibé en quelque sorte, grâce à l'entraînement du système 3, le réseau qui nous induisait en erreur, ce qui est à l'arrière, c'est le réseau de l'erreur, et qu'on utilise cette fois notre cortex préfrontal pour que faire ? Eh bien, pour se dire que s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, et que pour réfuter une règle, il faut être dans les conditions d'application de la règle pour la réfuter, donc il faut qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche, par exemple un carré bleu, mais ça pouvait être tout forme qui ne soit pas un carré rouge, si on met un carré bleu, on est bien dans les conditions d'application de la règle. Il n'y a pas de carré rouge. Et la règle nous dit, alors il y a un cercle jaune à droite. Donc si vous mettiez carré bleu à gauche et cercle jaune à droite, vous vérifieriez la règle. La règle serait bien vérifiée. Mais on vous demandait de la réfuter. Donc il fallait tout mettre, sauf un cercle jaune à droite, par exemple un losange bleu. Et ce que je viens de décliner là, c'est un algorithme. C'est le système 2. C'est-à-dire une table de vérité, il y a deux parties, la partie « si » antécédent, la partie « alors » le conséquent. Chacun peut être vrai ou faux, et pour qu'une règle conditionnelle soit falsifiée, rendue fausse, il faut que l'antécédent soit vrai, qu'on soit dans les conditions d'application de la règle et que le conséquent soit faux. Donc il fallait mettre, par exemple, un carré bleu et un losange vert. Et ce qui est passionnant, c'est que lorsque les élèves parviennent à sortir de ce biais d'appariement perceptif où ils répondaient carré rouge, cercle jaune, lorsqu'ils ont été entraînés à inhiber ce biais, voilà ce qui se passe dans leur cerveau, et y compris dans des tâches nouvelles où leur cerveau sera devenu plus robuste par rapport à ce type de biais. Alors la réponse logique que j'ai donnée là n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres réponses logiques possibles. C'est aussi un test de créativité. Mais il ne fallait surtout pas tomber dans le panneau, pour parler simplement, du carré rouge et du cercle jaune. Et j'ai pu dire déjà à l'académie où je présentais cela que j'ai même fait cette expérience en France avec des groupes de polytechniciens dans des grands groupes industriels français et que tous se trompaient, tout autant que chacun d'entre nous. Alors que, très franchement, je savais que certains allaient se tromper parce que c'est un biais robuste, mais je m'attendais quand même à ce que la moyenne de réponse de ce type soit plus élevée. Non, le groupe, et j'ai fait cela plusieurs années de suite, répondait très souvent carré rouge, cercle jaune. Donc même le polytechnicien ne parvient pas à inhiber ce biais cognitif simplement parce qu'on a, dans la scolarité à l'école polytechnique, entraîné le système 2, la logique, les algorithmes, considéré que les intuitions, les heuristiques, les biais cognitifs du système 1 étaient des intuitions enfantines qui allaient disparaître au cours du développement, ce que croyait Jean Piaget, par exemple, avec sa théorie des stades. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces biais cognitifs ne disparaissent pas, précisément parce qu'ils sont très utiles dans beaucoup de situations. Les heuristiques persistent et coexistent avec les algorithmes parce qu'une heuristique est un mécanisme, un automatisme qui est très adapté, très souvent, mais pas toujours, dans les cas que je vous montre. Dans vos cours d'histoire des sciences, mais voilà l'exemple le plus célèbre. Je vous ai parlé de ce processus chez l'enfant dans les exemples et chez l'élève dans l'exemple antérieur. Mais l'héliocentrisme, vous imaginez combien dans le cerveau de Galilée et de Copernic, etc., l'héliocentrisme a nécessité d'inhiber une heuristique, un système 1 hyper puissant qui était le géocentrisme. Le géocentrisme qui venait, comme vous le savez, de l'Antiquité et de l'astronome Ptolémée, que vous avez là en portrait, et on était convaincus que nous, les humains, sur Terre, étions le centre de l'univers, et vous avez là cette carte, monsieur le secrétaire perpétuel qui est géographe, cette carte où on voit la Terre au cœur du système. Mais c'est une heuristique, et c'était faux, c'était une illusion. Et grâce à Galilée notamment, Galilée a su dire non au géocentrisme, il a inhibé le géocentrisme et il a activé l'héliocentrisme, et pour cela il a fallu des lunettes pour observer, des algorithmes pour mesurer. Et donc l'histoire des sciences en fait peut aussi se redécrire comme chez l'enfant par ces trois systèmes: heuristique, algorithme et inhibition. Et tout le procès de Galilée dont vous avez entendu parler, qui fut célèbre, eh bien portait, si on le redit en termes d'aujourd'hui, à ce que son cerveau et celui de ses inquisiteurs, les hommes d'église notamment à l'époque, soient capables d'inhiber l'heuristique géocentré, non, nous ne sommes pas le centre de l'univers, et d'activer, ce qui n'est pas facile, même vous quand vous avez appris ça en classe, d'imaginer que ce soit le soleil et qu'on soit dans un système héliocentré. Dès lors, un cerveau, et c'est ce que je vous souhaite, chers étudiants, chers élèves, un cerveau en bonne santé cognitive est un cerveau qui inhibe bien. Aujourd'hui, plus que jamais, on a créé pour des âges plus jeunes que les vôtres des coffrets pédagogiques qui maintenant sont utilisés dans les classes maternelles. Monsieur le recteur est très soucieux à ce qu'on construise l'école maternelle du 21e siècle et on travaille ensemble à cela. Voyez le titre de la boîte de jeu, « Entraîner le cerveau à résister ». Et donc, dès la maternelle, il y a des petites situations simples que je n'ai pas le temps de vous présenter, où il y a des jetons en nombre égal, par exemple, deux alignements, l'enfant dit c'est pareil, même nombre de jetons, sous ses yeux, on écarte l'un des deux alignements, on lui dit maintenant, les petits disent, ah ben il n'y en a plus pareil, il y en a beaucoup plus là où c'est plus long. Heuristique, longueur égale nombre, et l'algorithme, c'est le comptage. Si on compte, quel que soit l'écartement, le nombre est identique. Donc, il y a des situations très simples qu'on peut utiliser dès la maternelle pour rendre nos cerveaux plus robustes. Et on a même, avec l'éditeur Nathan, construit des personnages que les enfants utilisent. Capitaine Inhibition, qui est votre cortex préfrontal, qui doit dire stop dans certains cas. Le Resti, qui a des grandes jambes, donc elle court très vite, ce sont nos automatismes. Je vous le dirai tout à l'heure, mais les fake news, quand vous croyez trop vite une info sur Internet, ben c'est votre heuristique, votre système qui court beaucoup trop vite et vous tombez dans le panneau, vous validez, vous retransmettez cette info. Et l'algorithme que vous voyez à l'arrière, qui est un sac à dos parce qu'il y a dedans la connaissance, les instruments de mesure, notre rationalité, pour tout dire, eh bien, il a des plus petites jambes, il a un gros sac parce que c'est le poids des connaissances, des maths, du calcul, des algorithmes, et il est souvent devancé par nos heuristiques. Et avec ces petits jeux, on apprend aux enfants à utiliser leur capitaine inhibition, on montre une carte du cerveau, on montre où cela se joue. Cela pour vous dire, et c'est très important pour moi, pour l'école de demain, que ces concepts que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas seulement des modélisations de psychologues, des théories testées en laboratoire avec des caméras d'imagerie cérébrale, ça peut se décliner en classe avec du matériel qui ressemble à un matériel ludique tout à fait classique. Et en faisant ça, on fait ce qu'on appelle la métacognition, on apprend à réfléchir sur son cerveau et sur ses propres processus cognitifs. Aux âges qui sont les vôtres, il y a notamment, on l'a déjà évoqué, la question des écrans, et on fait aujourd'hui des études très fines sur la difficulté qu'on a, nous adultes, et vous aussi, et notamment les jeunes adultes, à inhiber les fake news, donc les infox, et les fake news sont typiquement les heuristiques, c'est-à-dire des infos qu'on a envie de croire, qui paraissent crédibles, qui peuvent correspondre à nos attentes, nos stéréotypes, et l'opposé d'une fake news, donc d'une heuristique de crédibilité, l'opposé, c'est la validité logique. Vérifier le raisonnement. Est-ce que les prémices sont vraies? Est-ce que la déduction s'applique? Et en fait, on fait rarement cela. Même si, j'en suis convaincu, vous êtes tous logiques, vous avez appris à raisonner, vous savez faire des calculs, vous savez faire des déductions logiques. Néanmoins, face à un écran, vous risquez fortement d'être emporté par votre système heuristique, par la crédulité. On juge donc les connexions, c'était mesuré, de la crédulité dans le cerveau sont plus rapides que les connexions de la validité logique, parce que ça prend plus de temps de valider, de raisonner. C'est le métier des journalistes, par exemple. Et on sait combien aujourd'hui, avec le numérique, la multiplication des écrans, on devrait tous être des petits journalistes, apprendre à vérifier les sources de l'information, ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Et donc, les exemples que je vous ai donnés sont aussi au cœur de cela. Et ce système 3, qui n'est pas assez éduqué à l'école d'inhibition, permet l'esprit critique, aussi la tolérance, parce qu'on peut inhiber notre propre point de vue, qui est l'heuristique égocentré, pour activer le point de vue de l'autre, ce qu'on appelle l'algorithme allocentré, en termes spatial. Allocentré, c'est si vous regardiez l'amphi d'au-dessus comme une carte. Tout le monde voit la même chose. Mais là où vous êtes, par exemple, vous voyez l'inverse de ce que je vois. Donc, pour imaginer ce que vous voyez, je dois inhiber mon système 1, l'heuristique égocentré, et activer votre point de vue spatial. Comme on le voit très bien sur cette image, l'un voit un 6, l'autre voit un 9. Et c'est très difficile dans cet âge, chez le jeune enfant spatial, d'inhiber son propre point de vue. Ce qu'on appelle des tâches de coordination de perspective visuelle, et là aussi, on pense en faire en maternelle pour bien entraîner la prise de conscience par l'enfant que l'autre peut, sur la même réalité, avoir un point de vue différent. Et c'est par cet égocentrisme spatial, que vient aussi, naît l'égocentrisme social et le communautarisme. Donc, ayez ça à l'esprit, c'est qu'on a, en effet, notre cerveau est fait, et Montaigne, qu'on citait tout à l'heure, disait, était tout à fait désolé du sociocentrisme de ses contemporains, à l'époque des guerres de religion, où les gens s'entretuaient parce qu'ils avaient des points de vue différents. Montaigne disait, nous sommes égocentrés, les humains, c'est physiologique, c'est parce qu'on n'a pas deux yeux en arrière, disait-il. Et c'était très bien vu. En effet, c'est ça qui se passe là. Si on avait des yeux partout, en effet, on pourrait calculer tous les points de vue. Mais d'emblée, notre constitution physiologique fait que, spatialement, visuellement, on a un point de vue. Et en fait, c'est la même chose pour les croyances, pour les opinions. Ça reste vrai dans le monde du travail, où les heuristiques dont je vous ai parlé sont individuelles. On se trompe, on se laisse tromper par une illusion perceptive perceptive dans le problème de logique que je vous ai montré, mais elles peuvent être collectives, c'est-à-dire qu'on tombe tous ensemble dans le même panneau. Une entreprise, par exemple, peut prendre une décision absurde et parfois dirigée par un polytechnicien qui a ses propres biais cognitifs. Et donc, vous pourrez, je l'espère, et je vous conseillerai une lecture après, garder ces notions pour toute votre vie. Quand vous serez dans le monde du travail, vous dites « Ah, il faudrait peut-être inhiber dans ce cas-là. Les autres n'imitent pas, mais moi, je vais les aider à inhiber leurs biais cognitifs parce qu'on est en train de se planter ou prendre une décision absurde. » Daniel Kahneman, que j'évoquais tout à l'heure, le prix Nobel, a donc théorisé cette système 1, système 2. Système 1, le plus rapide, c'est le lièvre qui court très vite. Système 2, la rationalité, la tortue qui est plus lente. Et nous, on a vraiment maintenant découvert, étayé, illustré chez l'enfant et chez l'adulte, y compris avec des technologies d'imagerie du cerveau, que cette théorie est insuffisante et que le cœur de ce qui se passe, et notamment dans l'éducation et le développement de l'enfant, c'est le troisième système inhibiteur, dont on a vu que la maturation était lente dans le cortex préfrontal. Et c'est parce que notre système inhibiteur n'est pas assez bien entraîné. On a toujours vu à l'école le mot inhibition comme négatif, mais c'est hyper positif, c'est le cœur de notre intelligence cognitive et sociale pour la prise en compte du point de vue d'autrui en inhibant notre égocentrisme. Et donc, il faut tenir compte de ces trois systèmes, d'éveiller ce capitaine inhibition. On a tous ce héros en nous. Galilée en était, comme je l'ai dit, un exemple magistral, puisqu'il a inhibé une heuristique collective, le géocentrisme partagé par tous, et que l'Église voulait absolument maintenir, et on peut comprendre pourquoi. Et vous savez peut-être que Galilée était réhabilité par le pape Jean-Paul II. Donc des siècles plus tard, on a accepté l'idée que oui, le géocentrisme devrait être faux et l'héliocentrisme est exact. Et vous savez que reviennent aujourd'hui des théories qu'on appelle platistes et qui disent que la Terre est plate, qui retombent donc dans l'heuristique, dans les heuristiques précédentes, et c'est un défaut majeur d'inhibition. La couverture d'un livre que j'ai publié chez Le Pommier, j'ai appelé « Apprendre à résister », vous connaissez tous Rabelais, les moutons de Panurge, c'est dans vos cours de littérature ou d'histoire des idées. Et donc cette inhibition dont je parle et qu'on visualise dans le cerveau, ben, c'est le mouton vert, c'est celui qui résiste, qui inhibe, qui va dans l'autre sens, alors qu'on a tous plutôt tendance à tomber dans le ravin comme les moutons de Panurge. C'est le conformisme social, et sur le monde d'Internet et des écrans, c'est plus vrai encore aujourd'hui que jamais. Je vais m'arrêter pour cette partie. Marianne va en animer d'autres. Simplement pour vous dire, et c'est tout à fait dans la taille de vos poches, pour partir en vacances, prenez ce livre dans quelques semaines, prenez ce livre de poche qui s'appelle « L'école du cerveau » et vous retrouverez beaucoup de choses que j'ai décrites trop rapidement, et ça vous permettra aussi de retrouver ce problème de logique avec lequel, vous verrez, vous pouvez facilement tromper vos amis d'une autre académie, par exemple, ou vos professeurs, vos parents, parce que ce processus n'ayant pas été assez éduqué à l'école, on est tous susceptibles, très susceptibles, d'être influencés par des biais cognitifs inconsciemment. D'où l'importance de cette prise de conscience et de l'entraînement du contrôle inhibiteur. Je vous remercie de votre attention.
Oui, alors moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque par rapport à ce que vous avez dit, justement. C'est vrai que, par exemple, en physique-chimie ou en maths, on va nous apprendre les formules, on va nous demander de les appliquer, par exemple, les identités remarquables, etc. Mais du coup, vous pensez qu'il faudrait plus expliquer aux enfants comment ça fonctionne avant d'apprendre les formules ? Par exemple, les identités remarquables, je sais que j'avais un professeur de maths qui nous avait montré géométriquement ce que ça donnait avec des carrés, etc. Ce serait plus utile pour les enfants de voir les choses comme ça ?
Merci de votre question. Alors, à la fois votre question et l'intervention de Marianne illustrent que, bien sûr, on raisonne à l'école et dans un problème de physique ou de maths, on raisonne, mais il faudrait de façon beaucoup plus explicite, c'est même pour moi une urgence, expliquer déjà ça, par exemple, et vous voyez qu'on a différents matériels pour le faire déjà en maternelle, qu'à tout moment, on a ces trois systèmes en compétition, que très souvent l'heuristique, il faut l'utiliser, donc on entraîne ces automatismes. Personne ne penserait à ne pas apprendre à lire les mots dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Mais dans toutes les tâches, à peu près, hein, nous on travaille maintenant grâce à l'académie et dans le monde entier. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais on a une plateforme numérique qui s'appelle lea.fr, et on a dans toute la francophonie des écoles qui travaillent à distance avec le laboratoire, qui cartographient dans les classes les professeurs, ces heuristiques qu'on appelle des heuristiques cognitives et scolaires, des biais comme après plus j'additionne, etc. Il y en a plein, il y en a en orthographe, je les mange, on met un S à mange très souvent, parce qu'après les, on met un S, paf, ils sont tombés dans le panneau de l'heuristique alors qu'ils connaissent parfaitement la règle d'accord avec le sujet. Et donc les professeurs qui prennent conscience de ça revoient à peu près tout en fait. Et c'est juste un changement de connaissance, d'état d'esprit du professeur. Et vous, bon, qui êtes capable maintenant de le faire par vous-même, j'espère que ça ne vous quittera pas. Et que dans toute situation, vous direz, mais est-ce que je n'ai pas une heuristique, un biais trop rapide? Donc déjà, s'arrêter, prendre le temps, hein, laisser un peu de recul, parce qu'on raisonne trop vite. On confond vitesse et intelligence aujourd'hui, et plus encore dans le monde des écrans. Et si on fait ça, eh bien on sera toujours système 1. Et c'est pourquoi Kahneman a eu son prix Nobel, parce qu'il a montré que tous ses étudiants, à MIT, à Princeton, avaient des biais systématiques de type carré rouge et cercle jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Donc déjà, le savoir, c'est important. Après, il faut lire, il faut vous former. J'ai écrit un que sais-je que j'évoquais sur le raisonnement, et vous avez à peu près tous les biais de raisonnement qui ont été découverts dans le raisonnement inductif, déductif, abductif. Abductif, c'est quand on... comme le médecin qui part du symptôme pour retrouver la cause, ou un policier par exemple. Bref, on a beaucoup de connaissances aujourd'hui de psychologie expérimentale sur comment fonctionne votre cerveau qui raisonne, et surtout comment il se trompe. Et je pense que vous devez absolument connaître ça. Il n'y a pas, hélas, de psycho en secondaire. Quand on parle de psycho, on parle éventuellement de Freud. Et donc, je pense qu'il est urgent, en effet, que vous connaissiez un peu les lois de fonctionnement de votre cerveau, et surtout la panoplie des erreurs, des biais cognitifs, pour que vous soyez plus armés à l'école, dans la vie et sur Internet, et surtout que vous ayez conscience qu'un tiers de votre cerveau est inhibiteur, c'est ce cortex préfrontal, et que comme ça n'a pas été l'objet d'un apprentissage explicite, ni à l'école ni à la maison, ben, ça explique que rapidement on prend une décision absurde, ou je prends les cas extrêmes, la radicalisation religieuse. Beaucoup de parents, pas tous les cas, mais on dit... de jeunes terroristes ou qui préparaient un acte terroriste, que leur enfant avait une très bonne éducation, dans une très bonne école, avait passé son bac, donc avait parfaitement mobilisé son système 2, avait des tas de connaissances logiques. Mais en très peu de temps, s'est fait radicaliser sur Internet parce qu'on joue sur la manipulation mentale, les heuristiques du système 1. Mais je prends un exemple, une image de violence en Syrie, on dit donc, par exemple sur les Occidentaux qui l'ont fait, donc il faut se venger, etc. On manipule ce système 1, et si on prenait le temps de vérifier les sources, déjà, parfois ce sont des images prises ailleurs dans une autre banque d'images, la déduction qui est faite, dans beaucoup de cas, c'est de la manipulation pure. Et donc ça veut dire qu'on peut même avoir une très bonne éducation dans un très bon collège, dans un très bon lycée, mais ne pas être armé pour inhiber ces heuristiques, surtout quand on est face à un manipulateur. Et donc pour moi, c'est urgent que vous connaissiez tout cela. Et sachez que c'est de la recherche en train de se faire. Mais on a eu des progrès fulgurants ces 10 dernières années grâce aux caméras d'imagerie cérébrale, l'IRM. Et beaucoup d'adolescents de cette académie passent des IRM au laboratoire, viennent avec leurs parents quand ils sont encore mineurs. Et on travaille vraiment sur ces sujets-là. Et je pense qu'il faut qu'on les partage avec vous. Et c'est ce que l'on fait d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce que Olivier Houdet a dit sur, finalement, les écrans qui auraient tendance plutôt à vous faire réagir trop rapidement, à troubler votre raisonnement? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que non, vous gardez le contrôle et vous faites des choix? Parce que, finalement, on aurait presque envie de dire à Olivier Houdet: ben, déconnectons-nous pour apprendre à raisonner avec un Rubik's Cube, avec d'autres façons de faire. Quelle est votre opinion là-dessus?
Du coup, pour les réseaux sociaux, c'est vrai qu'au final, on ne prend même plus le temps de regarder ce qu'il y a devant nous. Par exemple, si je vais aller sur Instagram, je vais scroller, je vais liker les photos une par une, sans y faire plus attention. Et puis même avec Internet en général, j'ai remarqué que quand j'étais petite, par exemple, si jamais je me posais une question, j'allais demander à mes parents ou à mon professeur, j'allais chercher dans des livres. Aujourd'hui, je vais chercher sur Internet et au final, je ne vais pas retenir forcément l'information puisque je pourrais la retrouver Par exemple, mon petit frère, il fait de la pâtisserie et il connaît toutes les recettes de gâteaux, alors que moi, à chaque fois que je veux cuisiner quelque chose, je suis obligée d'aller sur Internet pour revoir la recette, même si je l'ai déjà cuisinée plusieurs fois. Donc, c'est vrai que c'est plutôt troublant. Et le seul problème qu'il y a, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'on est un peu dépendant quand même de nos téléphones, puisqu'on a grandi avec.
Tout à fait. Alors, c'est une très bonne remarque que vous faites. J'imagine qu'il y a... partagé par beaucoup. Bon, vous avez grandi avec. Alors on peut se dire, ce que je ne dis pas du tout, bon, c'est venu comme ça, c'est une génération sacrifiée, il y a eu la révolution numérique. Sachez que la révolution qu'on a vécue là, d'abord, pouvoir voir le cerveau à travers la boîte crânienne, les recherches qu'on fait au laboratoire, je montrerai une photo tout à l'heure, c'est in vivo. Donc vous êtes allongé dans une IRM face à un écran et on voit les réseaux de neurones qui s'activent, qui se désactivent, que vous inhibez ou non dans votre cerveau. C'est une révolution majeure. Vous savez que Platon, je sais pas si, non, je pense pas que Platon soit ici, mais Platon était cérébrocentriste, donc disait bien que la pensée est dans le cerveau. Aristote, son élève, n'y croyait pas, et Aristote était cardiocentriste. Il disait la pensée est dans le cœur. On sait aujourd'hui évidemment que la pensée est dans le cerveau, même si le cœur est très important. On a eu beaucoup de conférences de cardiologues récemment à l'Académie. Mais la mort ultime, c'est celle du cerveau. Et on sait ce qui se passe quand il y a un AVC, une lésion, on perd telle ou telle fonction cognitive. Et donc, Platon déjà cérébrocentriste, vous voyez, deux millénaires pour qu'on puisse nous vraiment voir technologiquement ce qui se passe dans le cerveau. Donc ça, c'est une révolution. Et en même temps, le numérique. Qui est, on le sait maintenant, une révolution comparable à ce que fut la révolution de l'imprimerie à la Renaissance. Et je parlais de Montaigne, on sait très bien que les guerres de religion ont été alimentées par les premiers livres publiés et les idées, notamment réformées, qui se diffusaient et au point que les gens commençaient à s'entretuer, les guerres de religion. Il y a un peu de ça aujourd'hui, on le sait, c'est un sujet autre, mais qui est très quand même lié à ce dont je vous parle. Et donc, c'est... vous êtes dans cette génération-là. Alors, il y a quand même une chance, c'est que la recherche va très vite, la science va très vite. On l'a vu pour la pandémie, on a critiqué la science au début, et puis on voit à quelle vitesse les découvertes ont été faites pour les vaccins, la compréhension de ce qui se passe. Eh bien, dans ces domaines-ci aussi, sur le raisonnement, comment fonctionne le cerveau, la science va très très vite. Donc, vous pouvez maintenant vous en accaparer. C'est aussi à ça que sert ce genre de rencontre. Là, vous allez vous dire, mais je ne peux pas ne pas savoir comment marche mon cerveau, et en tout cas, quel est l'état des connaissances aujourd'hui sur ce domaine des sciences, qui lui-même est en train de se faire, comme disait Merleau-Ponty, hein, c'est de la recherche en train de se faire. Et donc, là, vous voyez sur cette diapo, on l'a très précisément montré, il y a un circuit très rapide qui va de l'œil qui perçoit sur l'écran jusqu'au cortex occipital, très lié à un système émotionnel, et vous pouvez faire fonctionner ce circuit très très vite, ce que l'on fait en général, sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez, et il est quand même rare qu'on prenne vraiment son temps, qu'on vérifie, qu'on raisonne, et le fait qu'on like ou que vous likez, c'est le système 1, c'est l'heuristique affective, et liker, c'est pas raisonner. Donc il faudrait dire vrai ou faux plutôt et décliner la logique d'un algorithme, d'un raisonnement. Et donc votre génération est surexposée à utiliser son système 1 et apprendre des choses à l'école, mais par ailleurs renforcer vos biais cognitifs. Et s'ils ne sont que cognitifs, on peut dire ça va encore, quoique ça peut poser des gros problèmes après dans le monde du travail, mais aussi les biais sociaux, l'égocentrisme, le communautarisme, voire la radicalisation dans les cas extrêmes où vraiment votre système 1 est manipulé, votre système 2 devient tout à fait inutilisé. Et c'est ça la grande difficulté de la déradicalisation. Moi, je fus nommé à un moment donné par le garde des Sceaux dans un conseil scientifique après les attentats où on essayait toutes les disciplines, hein, des psychologues, mais aussi des médecins, des directeurs de prison, etc., de voir comment déradicaliser en prison, qui est une vraie question. Et ben, ça passe aussi par des mécanismes comme ceux que j'évoque. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas le temps de vous dire, on est très bavard, hein, les académiciens, vous l'avez remarqué, mais je ne suis pas le plus bavard, n'est-ce pas, Jean-Robert ? En plaisante. Que voulais-je vous dire ? Oui, les émotions. L'inhibition dont je vous parle, elle ne se déclenche pas toute seule. Elle est dans le cerveau, guidée. Alors, soit vous avez des émotions de base, du type, ce que je disais, liker ou réagir trop vite sur une image. Ça, c'est le système 1. Mais il y a d'autres émotions plus subtiles qui vont justement guider Capitaine Inhibition, donc guider votre cortex préfrontal, ce qu'on appelle des émotions contrefactuelles, c'est-à-dire qui vous font douter, le doute, la curiosité et le regret. Et ces trois émotions sont maintenant parfaitement localisées dans le cerveau, plutôt dans le centre du cerveau, et on a pu montrer que les élèves qui parviennent à inhiber un biais de raisonnement comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, mobilisent ces régions parce qu'ils doutent de leur première réponse, ils regrettent de l'avoir donnée, sont allés trop vite, et ils seraient curieux de savoir comment un autre élève de la classe a répondu, comment on peut faire autrement. Ce qu'on appelle la vicariance, c'est-à-dire prendre des chemins différents pour atteindre le même but. Et ça, ce sont des émotions. Et Antonio Damasio, qui est le grand spécialiste mondial des relations entre émotions et intelligence, qui vient de publier un dernier livre hier chez Odile Jacob, on travaille avec lui justement pour voir comment certaines émotions doivent être instillées, doute, regret, curiosité, pour déclencher l'inhibition du système 1 et activer notre système 2, notre rationalité. Et ces émotions-là, elles peuvent être éduquées. Moi, je plaide pour une pédagogie du regret à l'école. Et le regret, c'est trop tard, évidemment. Donc, quand on regrette, c'est qu'on n'a pas inhibé. Donc, il faut une pédagogie de l'anticipation du regret. Et par exemple, pour la déradicalisation en prison, on avait travaillé là-dessus, sur l'anticipation du regret. C'est-à-dire imaginer une action, ou le Brexit pour prendre une décision qui fut regrettée par certains le lendemain, parce qu'ils étaient en pleine manipulation des données, manipulation des informations, des opinions, et après certains ont dit oh, ben, c'est trop tard, j'aurais voulu voter autrement. Et donc cet exemple plus science politique que j'évoque me fait vous dire aussi qu'on travaille beaucoup à un partenaire qu'on a en laboratoire qui est Ipsos, donc les sondeurs d'opinion, et qui ont compris aussi pour eux l'intérêt de ces connaissances, en se disant finalement quand on demande l'opinion des gens, c'est oui, non, et répondent vite. Et donc on mobilise plutôt le système 1 que le système 2. Et on peut maintenant, dans certains sondages d'opinion, on a introduit comme une échelle de douleur à l'hôpital, une échelle de doute. Combien vous doutez ? Beaucoup ? Pas du tout ? Un peu ? Une échelle de regret ? Par exemple, sur 6 petites barres, une échelle de curiosité. Combien vous êtes, vous ou un enfant, curieux de savoir comment un autre a réagi ou a résolu le même problème ? Eh bien, avec ces échelles-là, on mesure très facilement, en fait, votre capacité émotionnelle à douter, à être curieux et à regretter, et ensuite à inhiber. Parce qu'alors, vous aurez une raison d'inhiber, une raison émotionnelle.
Quel est le système qu'on utilise le plus ?
Le système 1. Même les adultes, c'est ça la nouveauté. Nos conférences sont très courtes parce qu'après on a des choses plus personnelles sur les parcours, etc. à vous présenter. Mais dans une conférence plus longue, je vous aurai montré les théories du développement de l'enfant. Elles sont en escalier, stade par stade, un peu comme les classes à l'école. On est dans des niveaux de plus en plus grands. Donc, on a longtemps cru, et mon prédécesseur, Piaget, a cru affirmer cela, que le système 1, c'est chez l'enfant, il disparaît, et que va s'y substituer la logique, les règles, d'abord concrètes et puis formelles, le raisonnement hypothético-déductif à l'adolescence. Et en fait, ce qu'a démontré Kahneman chez l'adulte, c'est que le système 1 restait et dominait. Donc la réponse à votre question, c'est quasiment toujours le système 1 qui domine, mais mon point de vue personnel, c'est que Kahneman est très pessimiste, trop pessimiste. Et que si vous lisez son livre « Système 1, système 2 », il est lui-même, et il le dit, totalement pessimiste, en disant « Nous, humains, et nos institutions, y compris au niveau mondial, on est prisonniers de notre système 1. On a la logique quelque part, mais on l'utilise très peu. » Et moi, au contraire, peut-être comme instituteur, je crois qu'on peut parfaitement inhiber le système 1, et y compris entraîner cette inhibition qui est d'abord réflexive, on s'arrête, on prend le temps, on ressent une émotion, on doute, on inhibe la réponse que l'on voulait donner. Mais tout cela peut aussi, on l'a montré au laboratoire par une thèse de doctorat, s'automatiser. Et le but, c'est d'automatiser cette capacité d'inhibition, donc de contrôle inhibiteur, d'arbitrage, pour qu'elle soit aussi rapide que le système 1. Pour l'attraper au vol, pour rattraper nos heuristiques au vol. Donc peut-être qu'un jour, vous pourrez toujours répondre aussi vite face à un écran, mais vous aurez appris à très rapidement douter, détecter les heuristiques, les biais, les fausses informations et les inhiber. Et c'est pourquoi il faut l'apprendre à l'école, pour que ce système 3 devienne aussi automatique et rapide. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne prend jamais le temps de poser les choses comme ça, de les expliquer. Alors, on a la chance et l'honneur d'avoir le recteur de Paris qui est là et qui reste durant toute la conférence. Et je sais combien le recteur, on en a déjà parlé, a saisi et se saisit de ces données nouvelles. Et on voit qu'à tous les niveaux et dans des tâches très différentes, hein, j'ai pris un problème de raisonnement pour être adapté à vous, au public, mais je pourrais vous montrer des tâches chez l'enfant plus jeune comme celle qu'on a vue pour l'arithmétique. À tous les niveaux, on peut entraîner ces trois systèmes. Mais d'abord, il faut comprendre que c'est ça qui se passe dans le cerveau. Donc, réponse à votre question, normalement, c'est le système 1 qui domine, même si le système 2 existe par ailleurs dans votre cerveau. D'où la question contemporaine des fake news.
Est-ce que, du coup, à toujours vouloir, par exemple, les contrôles, donner un temps limité, ou alors aller toujours plus vite dans les programmes pour en apprendre le plus possible, le système scolaire actuel, il conditionne pas l'enfant à utiliser toujours son système 1, et au final, il brime le système 2 et même le système 3?
Alors, je n'irais pas ça tout à fait comme ça, parce que l'école entraîne beaucoup le système 2. Le système 2, je dirais, ce sont les programmes, ce sont les règles. Les règles en français, en orthographe, les règles qu'il faut appliquer, les règles de calcul, de mathématiques. Donc l'école entraîne plutôt beaucoup le système 2, mais très peu le système 3. Et comme les heuristiques, elles ne disparaissent pas et vont toujours interférer avec le système 2, on a le cas de figure que j'évoquais des polytechniciens qui ont vraiment eu le cursus scolaire parfait, mais qui néanmoins se trompent dans un problème de logique déductive élémentaire. Hein. C'était... Le problème a pu vous paraître compliqué parce qu'il était présenté rapidement, mais ce problème de si alors, ce n'est pas du tout un problème complexe, c'est de la logique déductive élémentaire. Et y compris le cerveau adulte ou polytechnicien bute, s'il est pris évidemment par surprise. Hein. On ne va pas lui dire c'est une situation piège dans laquelle vous risquez de vous tromper. On le met en situation, disons, naturelle de prise de décision. Donc l'école entraîne beaucoup le système 2, c'est-à-dire on apprend la logique, on apprend les règles et on les répète même. Et n'a pas assez pris conscience du fait qu'on construit aussi des heuristiques. L'exemple de « après les, je mets un S » ou « après plus, j'additionne », c'est souvent le professeur lui-même ou les manuels qui construisent ces heuristiques. Donc c'est la culture qui construit des heuristiques, et, enfin, subrepticement, sans en avoir conscience. Et dès lors, ce que l'école ne fait pas, c'est entraîner le système 3. Mais pour entraîner le système 3, on n'y nie pas dans le vide. Il faut cartographier les heuristiques. Et c'est ça qu'on fait avec beaucoup d'écoles, hein, déjà, toutes nos écoles partenaires, cartographient les heuristiques, comme un géographe ou un médecin, un épidémiologiste irait voir tous les symptômes, les maladies. Et des inspecteurs généraux avec lesquels on travaille nous disent « Ah, ben ça, c'est utile pour nous. » Parce qu'en effet, il y a ce qu'on appelle les erreurs génériques, c'est-à-dire les erreurs que font tous les enfants dans toutes les classes, quasiment tous les ans, pour lesquels on répétait le système 2, on répétait la logique. Et on se rend compte que ce n'est pas de ça que le cerveau de l'enfant a besoin. Il a besoin de comprendre le biais, l'heuristique, qui est toujours quelque part dans son cerveau, et la nécessité de l'inhiber.
Olivier, j'ai envie de vous demander, pour conclure cette partie, si vous deviez, en trois mots, imaginons un abécédaire de trois mots, qu'est-ce que vous choisiriez pour exprimer votre pensée, votre vision, votre message?
Oui, alors j'ai choisi ces trois mots, vous l'avez compris, en inhibant beaucoup d'autres. Donc j'ai dû inhiber plein de mots pour choisir ceux-là. Et aussi, j'ai un peu décalé par rapport à l'exposé que j'ai fait. Donc mon premier mot, c'est « beau » ou « beauté ». Le deuxième mot, c'est « cerveau », parce que quand même... Il est là. Et le troisième mot, c'est nouveauté, inconnu. Alors, je reviens très rapidement sur chaque mot. La beauté, il y a des travaux très jolis sur la beauté dans le cerveau. Là, je vous ai montré un exemple de tableau de Magritte dont on parlera tout à l'heure. Et la beauté sollicite trois mécanismes. Enfin, pour que quelque chose soit créé beau ou jugé beau, il faut la surprise, la cohérence, donc les détails et le tout, ce qu'on appelle la composition en peinture ou en musique, et la parcimonie, c'est-à-dire un Rembrandt qui met un peu de blanc sur un œil, tout le visage s'éclaire, c'est parcimonieux. Ou Picasso qui en un trait va dessiner le corps d'une femme ou d'un homme, c'est parcimonieux. Et donc, ce n'est pas les critères séparément, la beauté, c'est les trois combinés. Il faut qu'on soit surpris, que ce soit cohérent et parcimonieux. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est vrai pour les artistes. J'aurai peut-être l'occasion de vous dire tout à l'heure que je fais de la peinture, enfin j'en ai fait, j'en referai peut-être plus tard. Les artistes doivent combiner ces trois critères pour créer une œuvre. Si elle n'est pas nouvelle, si c'est une copie, ben, il n'y a pas de surprise. Si la composition n'est pas bonne, il n'y a pas de cohérence. Et si on aurait pu faire plus simple, mieux, plus élégant, il n'y a pas de parcimonie. Alors le deuxième mot, c'est cerveau, je ne reviens pas dessus, vous comprenez pourquoi. Et le troisième, la nouveauté. Et là, je pense à Rimbaud, et on a Pierre Brunel, qui est l'un de nos confrères, qui est un grand spécialiste de Rimbaud. Et Rimbaud dit quelque part, chercher, il parlait pour le poète, chercher toujours du neuf pour arriver à l'inconnu. Et je trouve cette phrase absolument magnifique. Et c'est notre travail à nous de chercher toujours la nouveauté, toujours du neuf pour arriver à l'inconnu. C'est le travail de la science, c'est le travail d'un aventurier. Et je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, sinon on se repose en quelque sorte sur notre système 1, nos automatismes. Et l'inhibition dont je parle, c'est ça, c'est chercher du neuf, sortir des circuits trop rapides, des sentiers battus, pour arriver à l'inconnu. Voilà mes trois mots, beau, cerveau, nouveauté.
On les retient, on les prend. Et vous savez, chaque académicien est une personnalité comme singulière, comme vous l'êtes également chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Et pour terminer, Olivier, qui a beaucoup de facettes, mais qui font une, hein, qui est très cohérent, va vous présenter, il voulait vous faire un cadeau à travers des œuvres ou des images qui vont passer quelque chose, je crois, puisque l'émotion joue aussi un grand rôle chez vous. L'art, en tout cas, et vous avez choisi des images et des paroles que vous vouliez offrir aux collégiens et aux lycéens et aux enseignants et à nous tous. Merci.
Avec grand plaisir. Juste avant, en vous écoutant parler, Marianne, je regardais les très belles statues qui ornent l'amphithéâtre. Pour faire simplement un rapprochement, il y a un grand philosophe qui est ici, qui a parlé en fait de système 1 et système 2. Qui était-ce selon vous ? Deux systèmes de pensée. Personne ? Pascal. Esprit de finesse, esprit de géométrie. L'esprit de géométrie de Pascal, il se référait à Descartes, qui est là. C'est système 2. C'est la logique, les algorithmes, qui, pour eux-mêmes, venaient d'Aristote, inventeur des syllogismes, qui nous permettent justement de bien raisonner. Donc Descartes n'était que système 2, mais avec sa méthode, parce que ce n'est pas facile d'utiliser son système 2. Pascal, beaucoup plus fin, avait dit, mais on est souvent ce qu'il appelait les puissances des sens. Il disait faut lutter contre les biais sensoriels, en quelque sorte, comme les illusions d'optique que je vous ai montrées. Et il disait ça atteint l'homme par le processus de persuasion. Et donc, c'était son esprit de finesse. Et esprit de géométrie, ben, c'est la logique, les règles, les algorithmes. Et je crois qu'il faut aller plus loin, parce que précisément, il n'y a toujours pas le système inhibiteur dans cette dualité-là. Le seul, pour moi, dans l'histoire des idées, c'est ce que j'ai écrit dans un autre que sais-je, qui s'appelle l'histoire de la psychologie, c'est Platon qui avait écrit un homo triplex. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais Platon avait déjà les trois systèmes que l'on décrit aujourd'hui. Alors, pour en revenir à votre question, j'ai voulu partager avec vous ce tableau de René Magritte, peintre belge, qui est en effet mon pays natal. Et finalement, la transition est bonne parce qu'on va reparler de Platon. Ce tableau qui s'appelle « La condition humaine » représente, vous l'avez reconnu, la caverne de Platon, hein, l'allégorie de la caverne de Platon, où dans l'histoire, des esclaves sont au fond de la caverne et voient sur le fond les reflets d'objets qui sont cachés près du feu, et les esclaves ne voient que les reflets. Dans l'allégorie de Platon, il y a quelqu'un, un éducateur qui va déchaîner l'esclave, qui le sort pour voir à l'extérieur ce que vous voyez là, les idées, disait Platon, le beau, le vrai et le bien. Et Magritte a repeint cette allégorie. Je l'ai découverte il y a quelques années, vous y êtes peut-être allé, il y avait une rétrospective Magritte à Beaubourg, et je vois ce tableau, qui est beau par ailleurs, et il y avait un groupe d'élèves comme vous assis par terre avec leur professeur d'histoire de l'art, j'imagine, qui leur donnait une explication. Je connaissais beaucoup de tableaux de Magritte, mais pas celui-là. Je dis, mais c'est extraordinaire. parce que vous voyez, et là je me suis dit, c'est la neuropédagogie, je n'ai pas voulu les déranger, hein, je ne suis pas intervenu dans leur cours, mais qu'a fait Magritte ? Il a dessiné un chevalet, et sur le chevalet, vous voyez la toile, avec un léger décalage, la forme de la toile, un léger décalage du paysage. Donc un léger décalage qui veut dire en quelque sorte que c'est toujours le peintre, c'est-à-dire l'homme, le savant, le peintre, l'artiste, homme ou femme, qui reconstruit avec ses outils, donc le chevalet, les pinceaux, le vrai, le beau, le bien. Et c'est l'idée qui est tout à fait vraie en neurosciences que le bien, le beau ou le vrai passe toujours par le chemin de celui qui le pense ou de celui qui le ressent. Donc c'est ce qu'on appelle le constructivisme. Et c'était très subtil de la part de Magritte. Et dans un livre de poche que je vous ai montré tout à l'heure, je pars dans la préface, enfin dans l'avant-propos de ce tableau, pour dire que tout ce que l'on fait aujourd'hui sur le cerveau et comment le cerveau atteint le bien ou le beau ou le vrai, la logique, vous souvenez le problème de logique, eh bien ça passe par un chevalet. Donc c'est toujours une reconstruction. Et le problème, c'est qu'il y a des erreurs de reconstruction qui sont les biais du système 1 que j'évoquais tout à l'heure. Brièvement, une autre photo, le laboratoire qui est là-haut, que vous n'hésiterez pas aujourd'hui, mais vous pourrez revenir un autre jour. Donc, au-dessus de, au 46 rue Saint-Jacques, c'est-à-dire deux étages au-dessus de ce grand amphi, se trouve le laboratoire que j'ai eu la chance de diriger pendant 20 ans et dont je suis le directeur honoraire. Et le nouveau directeur, qui est un jeune formidable qui venait de Harvard, qui est Grégoire Bors, que j'ai formé, est là avec nous maintenant. C'est un laboratoire du CNRS, parce que la psychologie scientifique est au CNRS. Et quand on ouvre la porte, eh bien, après quelques pas, on rentre dans mon bureau que vous avez là en photo, qui était bien rangé ce jour-là. Mais ce qui est caché dans le bureau, point, je crois que quand Jean-Robert, mon secrétaire perpétuel, est venu me voir, on avait parlé de beaucoup de choses, mais on n'avait pas vu le tableau. Et j'ai mis la flèche blanche pour vous dire que le tableau que vous avez à gauche est caché derrière des diplômes, des choses comme ça. Et ce tableau, c'était ma passion de jeunesse, la peinture. J'ai fait à votre âge énormément de peinture, d'académie. Je suis belge d'origine, donc il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a les primitifs flamands à Bruxelles, à Gand, à Bruges. Et j'étais passionné par la peinture sur bois avec la technique des primitifs flamands, donc Van Eyck, hein, que vous connaissez étant emblématique. C'est-à-dire des couches de glacis successives qu'on doit laisser sécher pour chacune d'elles et qui font ces effets de profondeur. Et ça, c'est un tableau inachevé que j'ai commencé il y a 30 ans et que j'appelle le tableau inachevé, que j'achèverai dans quelques années peut-être, qui s'appelle le maître d'école. Et ce tableau inachevé, il était inspiré d'Adrien Van Ostad, qui est un peintre flamand magnifique. Et donc, vous voyez que mon tableau n'est pas très différent, mais il est quand même différent et je m'amuse ainsi, tout en apprenant ces techniques, à créer des anachronismes. Anachronisme de forme, anachronisme de couleur. J'avais un peu oublié ce tableau sur mon bureau, et puis parfois on a quand même tendance à se dire que les choses ont en effet une cohérence ou une harmonie qu'on n'imaginait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, quand même, je fus instituteur, je continue de travailler avec les écoles, les enfants, et je n'avais pas le maître d'école, sans que rien de cela ne soit calculé, mais on peut dire d'une certaine façon que tout y était. Et là, on est plutôt sur, comme c'est l'art, la beauté. Alors, je sais aujourd'hui que dans l'art contemporain, la beauté n'est plus un critère. Si c'est beau en plus, c'est bien. Mais dans les installations, par exemple, le but n'est pas que ce soit beau. Et peut-être parce que je suis devenu académicien, j'ai des réserves par rapport à cela. Alors, dernière photo que je vais vous montrer. Vous savez, quand on est académicien, on reçoit une épée, je ne l'ai pas encore reçue parce que ma réception devait avoir lieu le 16 mars 2020, hélas le premier jour du premier confinement. Donc la cérémonie sous la coupole fut annulée, mais mon secrétaire perpétuel me confirme qu'elle devra avoir lieu à l'automne. Et donc il a fallu concevoir une épée, les amis de l'académicien qui vous offre cette épée, et je l'ai mise là parce qu'on me demandait une citation. Donc pour moi, une belle citation, c'est celle de Piaget, mon maître, que j'ai critiqué, mais dont je parlais tout à l'heure, le grand savant suisse qui a décrit les stades de l'intelligence logique, mais en pensant ni au système 1, ni au système 3. Et sa citation, c'est « Le réel est un cas particulier du possible ». Et je trouve cette phrase magnifique, elle dit tout. Et Piaget disait « C'est le jeune enfant ». le possible est un cas particulier du réel, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, comment on dénombre les objets, comment on les catégorise. Longtemps, enfin, on croit qu'on œuvre dans le réel. Et à un moment donné, c'est vous, à votre âge, ou il y a quelques années, grâce à votre cerveau, vous avez inversé les choses. Vous dites, mais non, c'est l'inverse. C'est le réel qui est un cas particulier du possible. Donc, vous raisonnez, vous faites des hypothèses, vous dites les choses pourraient être autrement. C'est pourquoi naissent à l'adolescence les idées politiques. On s'intéresse à la politique, on se dit mais le monde pourrait être autrement qu'il n'est. L'artiste aussi, s'il fait du neuf, comme je disais tout à l'heure, il faut à un moment donné qu'il imagine quelque chose qui n'est pas dans le réel, et donc il le créera et ça deviendra dans le réel. Donc cette phrase que je trouve très belle et qui vaut pour la psychologie et pour les neurosciences, et que grâce à notre cerveau, on peut appliquer, le réel est un cas particulier du possible. Donc allons-y, on peut tout imaginer, après il faut le réaliser, mais le cerveau humain peut justement imaginer le réel autrement qu'il n'est, et le changer. La question climatique de l'environnement pour votre génération, la prise de conscience environnementale est aussi applique ce principe. Et enfin, autre citation de Jean d'Ormesson, qui était un ami et qui m'avait très gentiment dédicacé son volume de la Pléiade, qui était publié ici par définition avant sa disparition. Et Jean d'Ormesson écrit dans l'un de ses livres « Penser vraiment, c'est penser contre soi-même ». Et j'ai trouvé cette phrase très belle et je me suis dit « c'est exactement ce que nous étudions avec le système 3 inhibiteur, c'est penser contre ses propres biais ». Contre ses propres automatismes cognitifs. Et quand on pense contre soi, on peut avoir un esprit critique, on peut imaginer le point de vue d'autrui, on devient tolérant, on fait une découverte scientifique parce que tous les chercheurs pensent la même chose, sont dans la même heuristique et quelquefois il faut changer de paradigme. Donc penser contre soi est très beau. Et Jean d'Ormesson m'avait dédicacé ce volume de la Pléiade qui est là-haut aussi. Je ne vais pas vous le lire, mais c'était très touchant. Et ça reste pour nous tous l'académicien emblématique. Merci de votre attention.
Merci Olivier.